l'université. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 56 74 76 85. Eau de Radio, la radio plus près de chez vous. Site internet www.eauderadio.net.
L'association Loi 1901, une boîte un toit de Saint-Loubès, assure le tri sélectif et le recyclage par la collecte de conserves, canettes, aérosols, électroménagers et tout autre métaux. S'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable et de solidarité en redistribuant les revenus rassemblés aux familles en difficulté. Enlèvement gratuit. Passage sur appel au 06 73 02 81 42 et plus d'informations sur notre site internet www.uneboiteuntoit.fr.
Présent à ce nom depuis 20 ans, toute l'équipe de votre restaurant Pizzeria Marco vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des produits frais et cuisinés maison, midi et soir, du lundi au vendredi et le samedi soir. Retrouvez votre restaurant Pizzeria Marco à sa nouvelle adresse, 5, 7, rue Condorcet à ce nom, sortie Rocade numéro 25. Le restaurant Pizzeria Marco, c'est aussi des repas de groupe, des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des repas d'entreprise, des séminaires et un service traiteur. Études et devis personnalisés, contactez-nous. Retrouvez l'ensemble de nos offres et la carte du restaurant Pizzeria Marco sur notre site internet www.pizzeriamarco.fr.
Écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3, 91.3.
Bonjour et bienvenue, ici Monon Journier sur le 433 Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et on se retrouve comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé le jour même à 18h. Et on n'oublie pas le podcast, la possibilité de venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions via le site eudoradio.net. Allez, ce rappel récurrent réalisé quand nous retrouver au sommaire de ce journal, et bien c'est ce que je vais sans plus tarder vous dévoiler. Ce seront Amel et Hassan qui vont, pour ouvrir ce journal, vous présenter quelques brèves. Nos invités du jour avec Damien Thomas, directeur artistique du festival La Semaine Réaliste, Surréaliste, attention, n'écorchons pas le titre, qui va se dérouler du 5 au 13 mai. On va en parler bien sûr de cette semaine surréaliste, mais également du fait qu'il lance bien le fameux crowdfunding. Voilà, on va traduire par financement participatif, mais Damien nous expliquera tout cela avec force détail. On aura également le plaisir de recevoir Jean-Claude Guichenet, c'est le président de la Ligue des Droits de l'Homme, et il va nous parler notamment de la situation que vit en ce moment des réfugiés et demandeurs d'asile sahraoui ici à Bordeaux. Pour la partie musicale, Noémie Westfeld et Blick, c'est un deuxième album qui vient juste de sortir. Ils sont en tournée internationale et une date bordelaise. Et de manière plus précise, ce sera dans l'agglomération ici à Senon, Rocher de Palmer, samedi 7 mars prochain. On écoutera un extrait de leur second album. Et si vous voulez gagner des invitations ou même carrément cet album, il faudra nous appeler tout à l'heure au 05 56 74 76 85. Et on clôturera ce journal par notre habituel agenda culturel. Et l'un des temps forts, pour ne pas dire le temps fort, sera bien sûr ce carnaval monstre qui va se dérouler ce dimanche entre les deux rives bordelaises. Et comme on est vendredi, le magazine thématique du jour sera le magazine juridique et social. Défendez-vous, tel est son nom. Jean-Christophe Blancan à l'animation, Maître Paul Cesseau comme intervenant. Voilà, c'était le sommaire. Amel et Hassan, c'est donc à vous d'ouvrir ce journal de ce vendredi 27 février par quelques brèves.
En Irak, les images d'un musée saccagé par les djihadistes dans une vidéo mise en place hier soir par DEC. On voit les djihadistes mettre en place des œuvres inestimables de l'époque pré-islamique au musée de Mossoul. En Irak, une mise à sac condamnée à travers le monde, notamment par l'UNESCO qui réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette attaque est bien plus qu'une tragédie culturelle. C'est également une question de sécurité parce qu'elle alimente le sectarisme, l'extrémisme violent et le conflit en Irak, selon Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO.
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes réunis au Salon international de l'agriculture. Cette salon se tient dès le 21 février et se déroulera jusqu'au 1er mars à Paris, porte Versailles. Aujourd'hui, la nouvelle grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, est à l'honneur. Pour la première fois, les trois régions qui vont fusionner partagent une journée commune au Salon international de l'agriculture, en présence des présidents de ces trois régions, notamment d'Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine. L'événement a l'opportunité de se présenter les unes aux autres et de partager les idées et les produits. Au programme, à partir de 11h30, c'est le temps de visite des exposants des trois régions au Hall 3. À 15h, c'est le départ pour la visite des filières, des éleveurs et des animaux des trois régions au Hall 1. Ensuite, à 17h30, c'est la grande parade des animaux des trois régions au Hall 1. Et à la fin de la journée, à 19h30, il y a la soirée Nouvelle Grande Région sur le Grand Rhin au Hall 1.
Manifestation des skieurs, une manifestation drôle qui se prépare à la station de ski de la Mongie, Haute-Pyrénées. Beaucoup de vacancières en colère vont manifester ce vendredi après-midi devant l'office de tourisme. Bloqués depuis 6 jours dans la station à raison des intempéries, ils dénoncent le manque d'informations sur la situation.
Et on rappelle, le point relais de Bordeaux-Saint-Pierre ouvre à nouveau ses portes au centre social et culturel Saint-Pierre, 4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux, le 2 mars. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de venir.
Carnaval monstre, cela est le slogan sous lequel le carnaval à Bordeaux se déroule cette année. Au programme ce week-end, aujourd'hui à 18h15, les vitrines des galeries Lafayette Homme s'animeront avec des danseurs à la Si Loubali. Alain Ganoté habillé des costumes des collections de Charlie Le Mindou. Le samedi, de 14h à 18h, à l'espace enfants des galeries Lafayette, il y a un atelier maquillage où les enfants pourront se faire maquiller en monstre et dans la nuit de samedi à dimanche à 1h, au bassin à flot. On pourra assister aux projections géantes d'Olivier Crozel. Le dimanche, la parade du carnaval des deux rives aura lieu à partir de 14h. Le départ est l'allée serre rive droite à 14h. Et la finale se déroulera vers 18h à la place de la Bourse. La fabrication des costumes et la mise en scène de la parade est réalisée par Charlie Le Mindou, coiffeur excentrique d'origine bordelaise.
Hassan, merci.
Merci, Jo.
Et merci Amel, et ça va être un remerciement un petit peu spécial parce que Amel, voilà, était stagiaire à nos côtés et va nous quitter. Alors Amel, 2 mois, c'est vrai que une fois que c'est passé, on a l'impression que voilà, c'est très très vite passé. Peut-être nous dire quelques mots, hein, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui vous a mené ici à Oudo Radio dans le cadre de ce stage?
Oui, tout à fait, ça se passait très 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 vite. Je suis restée ici pour 2 mois et comme vous savez, je suis d'origine allemande, donc ici c'était vraiment l'occasion pour moi d'améliorer mon français, de parler, d'écrire les textes, et j'ai vraiment profité de ça. Et ouais.
Alors la suite, vous allez retourner chez vous, quelques jours de vacances, vous repartez sur un stage.
Ouais,
qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Amel?
Exactement, je vais rentrer en Allemagne et après je vais encore une fois faire un autre stage dans un autre domaine complètement différent. Et après, au mois de septembre, je vais commencer mes études en Allemagne.
Très bien. Voilà. Écoutez, Armel, au nom de toute l'équipe d'Odo Radio, voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, bien sûr, pour la suite. On vous remercie vraiment très sincèrement. Pendant 2 mois, voilà, on a passé du bon temps sur le point de vue professionnel, bien sûr, mais également relationnel. Donc vraiment merci à vous. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, certainement qu'on aura des infos. On échangera.
Bien
en tout
sûr.
Cas, ouais, vraiment merci beaucoup et rassurez-vous Hassan. Hein. Voilà, Hassan qui est encore à nos côtés. Voilà, on aura l'occasion de pouvoir échanger. On était filmé d'ailleurs Hassan. Hein. On rappelle, hein, vous êtes volontaire dans le cadre du projet Wetche et là vous aviez des collègues, si je puis dire, qui vous filmaient. Allez, merci à tous les deux. Allez, c'était un petit peu d'émotion, hein, mais on va recevoir notre premier invité, donc Damien Thomas, directeur artistique du festival Surréaliste. Damien, bienvenue à Odo Radio.
Merci.
Alors tout à l'heure, j'allais commencer par le lapsus semaine réaliste, bien sûr qu'elle va être réaliste, mais c'est la semaine surréaliste, je vais y arriver. Alors je rappelle que vous lancez bien du financement participatif, ça voilà, faut vivre avec son temps et c'est un moyen de pouvoir, on va pas refaire le topo des baisses, bien sûr, des subventions, etc., même si c'est une réalité. Mais peut-être avant d'en reparler de ce financement, peut-être mieux vous connaître. Alors, la semaine surréaliste, alors, ça va se dérouler du 5 au 13 mai prochain, tant à Bordeaux qu'à Bègles et Pessac. Mais le principe, c'est quoi? C'est, vous allez œuvrer dans quel champ artistique, dans quel domaine?
Donc, la semaine surréaliste, c'est un festival pluridisciplinaire. Donc, c'est vrai qu'on met en lumière toutes les disciplines contemporaines, le cinéma, la danse, l'art plastique, le théâtre, la lecture publique. Autour de l'énergie de la création des surréalistes des années 20, mais vraiment dans sa dimension contemporaine, donc d'aujourd'hui. Et sur chaque édition, on a défini un fil conducteur, donc cette année, c'est autour du Japon.
Voilà. Alors pourquoi le Japon? C'est un bon choix, bien sûr, mais il y a bien des motivations, hein. Pourquoi le Japon, c'est un monde qui vous fascine? Alors, on parle souvent de manga, de jeux, mais ça va bien au-delà. Il y a la cuisine, etc. Dans quel angle vous allez prendre autour du Japon?
Ah, c'est vrai que le point de départ du Japon, c'est que nous avons découvert une forte influence des surréalistes français au Japon. Et donc, il nous est apparu vraiment intéressant de mettre en lumière ce pays, donc le pays du soleil levant, en France, à Bordeaux, donc à notre festival, et ça nous a permis de faire découvrir donc un cinéaste japonais qui s'appelle Katsuki Nai, qui était une véritable star au Japon dans les années 60-70, et que l'on redécouvre et qui viendra spécialement de Tokyo pour le festival en mai.
Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver également sur ce festival?
Alors,
vous nous avez un petit peu dévoilé en partie, hein, donc oui. Un invité prestigieux, invité de marque, mais encore des artistes locaux, moins locaux.
Alors déjà, la grande figure nationale, c'est le cinéaste Jean-Pierre Mocky, qui viendra pour 3 jours à Bordeaux.
Voilà, c'est pas une personnalité neutre, hein, Jean-Pierre. Voilà, hein. Je pense que s'il a des choses à dire, et il en a, il va les dire. Hein.
C'est ça.
Il va pas mâcher ses mots. Hein.
Voilà. Et c'est vrai que c'est une figure qui nous intéresse, parce qu'effectivement, c'est une légende vivante.
De par son parcours atypique.
Par son parcours, effectivement atypique. Il fait encore tourner les plus grands acteurs français.
Ah, il a tourné avec les plus grands, hein,
c'est
qui plus est, hein, souvent avec des petits budgets. Hein,
voilà.
Il racontait, mais enfin voilà, ça, une personnalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il laisse pas indifférent.
Exactement. Donc voilà, donc c'est à découvrir.
Donc il y aura Jean-Pierre.
Il y aura Jean-Pierre. Mais donc effectivement le cinéaste japonais, mais également des acteurs locaux, des cinéastes de la région. Voilà, donc ça c'est vraiment à découvrir sur l'ensemble de la semaine. Ça sera très riche. Une exposition à la création franche à Bègles, des performances de danse au musée d'Aquitaine.
Là, la programmation, elle est bouclée, c'est du 5 au 13 mai, on a encore un petit peu de temps devant soi, mais quand on est organisateur, voilà, le temps, c'est vrai qu'il faut le maîtriser, hein,
oui.
Parce qu'il passe très très vite, mais la programmation du festival, bouclée 100%.
Elle est quasiment bouclée, voilà.
Bon.
Dans les prochains jours.
Bon, mais là, c'est vraiment en bonne voie. Et là, pour boucler le budget, hein, parce que c'est vrai que c'est des invités prestigieux, ça demande des moyens, de la logistique, des frais. Hein, ça, c'est une logique, bien sûr, implacable. Donc, pour vous aider à financer le festival, eh bien, le crowdfunding, c'est un mot à la mode, hein, financement participatif. Hein, faut toujours franciser les termes. Donc, via Ulule.
C'est ça, tout à fait. Donc, on a lancé cet appel il y a quelques jours pour nous aider à compléter le financement du festival. Donc pour 2 raisons. La première, c'est faire venir le cinéaste japonais de Tokyo, Voilà, donc un premier poste important. Et le deuxième, c'est de pouvoir permettre à un jeune artiste plasticien issu d'école des Beaux-Arts de Bordeaux pour une installation plastique et sonore autour d'une légende qu'il a inventée autour des samouraïs et du surréalisme qui se déroulera au Garage Moderne à Bordeaux.
Alors vous avez quand même quelques aides publiques, même si c'est moins évident. Hein,
oui, on a quelques soutiens. Ça n'a pas été simple. C'est pas encore totalement réglé, mais on se bat.
Alors qui explique cet appel, hein, mais de plus en plus de structures font appel à cette forme de financement. Alors on rappelle les modalités, hein, il y a vraiment un temps donné, voilà. Et si la somme que vous demandez est atteinte, voire plus, vous avez les sous-sous, comme dirait l'autre. Par contre, si vous êtes en deçà, les donateurs seront remboursés, et malheureusement, voilà, vous n'aurez pas atteint l'objectif, mais on va être positif.
Voilà,
donc on
positif.
Va aller. Donc là, beaucoup de monde autour de vous sentez le public, parce que c'est bien aussi au public de se sentir empreint de cette volonté de soutenir un festival. Hein. Voilà. Donc là, le premier réseau, la première sphère a été touchée.
Oui, ça c'est en cours et ça démarre plutôt
donc
bien.
Donc là, on regarde le compteur tous les jours.
C'est ça. Donc pour l'instant, ça démarre tout doucement, mais ça a bien démarré.
Mais sûrement. Allez, le principe, fr.ulule.com, semaine surréaliste, et là il y a un petit topo qui explique les raisons qui vous amènent à demander quelques aides. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On n'hésitera pas à vous réinviter d'ailleurs pour la semaine surréaliste. Voilà, je vous parlais qu'on avait hors antenne au magazine cinéma, etc., même s'il n'y a pas que cette entrée-là. Donc on vous invitera bien volontiers. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à cette semaine surréaliste qui arrive à grands pas du 5 au 13 mai, et surtout ce financement, là, c'est vraiment...
Mais c'est vrai que
c'est l'actu, hein.
La semaine surréaliste met vraiment au cœur de sa programmation le public. Donc plutôt que d'être dans une position de spectateur, on est vraiment dans une position d'acteur. Donc c'est aussi dans le prolongement de cette charte qu'on lance, cet appel à financement participatif.
Très bien. Bah, écoutez, on va relayer l'info sur Facebook notamment, si on peut être en modeste moyen maillon de le lapsus de la chaîne. On n'hésitera pas. Et puis, Damien, on vous invitera pour présenter toute cette programmation ultérieurement. Et puis, on croise les doigts pour vous, hein, pour ce financement. On rappelle via Ulule, semaine surréaliste.
Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup. Et là, on va passer à un autre sujet. On a le plaisir de recevoir Jean-Claude Guichenet. En même temps, Jean-Claude, président de la Ligue des droits de l'homme, quand vous venez, c'est parce que le combat continue. Hein. Il y a toujours tellement de causes à défendre. Alors, hier, vous avez organisé une conférence de presse. Elle s'est tenue hier jeudi sous la passerelle Eiffel. Voilà, pour mettre en avant, médiatiser, eh bien, le sort indigne que subissent les réfugiés et demandeurs d'asile sahraoui. Alors peut-être que depuis hier, la situation a évolué, mais rappelez-nous dans quel contexte ils sont, ces réfugiés
Le contexte, et demandeurs d'asile. Alors d'une part, d'où arrivent ces personnes-là? Ils arrivent effectivement du Sahara occidental, ils sont d'origine algérienne. Pour la plupart, ils arrivent du camp de Tindouf, qui est un camp de réfugiés géré à travers le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Bon, on ne sait pas exactement combien de milliers de personnes sont réfugiées là-dedans. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont réfugiées dans ce camp-là, dans des conditions qui sont des conditions de persécution, parce que effectivement le gouvernement algérien ne leur fait pas de cadeau, le Front Polisario.
Pas ça non plus.
Pas davantage.
Bien sûr.
Donc, et pour certains, c'est effectivement le choix, soit de rester et de péricliter dans des conditions un peu plus problématiques, soit de fuir. C'est ce qu'ils ont fait pour ceux qu'on a retrouvés, effectivement, qui se retrouvent aujourd'hui sous le pont Eiffel pour partie à Bordeaux. Alors pourquoi on a tiré la sonnette d'alarme? Parce que ça fait maintenant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, que ces réfugiés sont là. La plupart sont demandeurs d'asile le problème, c'est que théoriquement le droit voudrait que l'État les loge. Or on a assisté au cours de ces derniers jours à une forme, je dirais, de jeu de yo-yo de la part de l'État, entre l'État, les collectivités, qui a fait que finalement on a retrouvé ces personnes-là, les pieds dans l'eau, dans des tentes, dans des conditions, ou dans des cabanes en bois, dans des conditions qui sont tout simplement ignobles et indignes. Et il nous paraissait, je dirais, nécessaire de tirer vraiment la sonnette d'alarme, et c'est ce qu'on a fait hier en invitant les journalistes, pour dénoncer cette situation et dénoncer, c'est une forme d'impuissance, mais une impuissance qui est pas liée au hasard. C'est une absence de volonté finalement de vraiment régler la question, alors qu'on peut le faire. Face aux tergiversations de l'État en particulier, on a convoqué la presse et les médias pour attirer l'attention du public ou du grand public sur la situation de ces personnes. Alors ils sont à peu près une petite centaine. Alors oui, depuis hier, la situation a évolué, mais ce qui est malheureux, c'est que il faille à chaque fois en arriver à tirer des sonnettes d'alarme, à faire de la provocation pour pouvoir obtenir que les choses arrivent à un minimum de règlement, quoi. Et c'est tout simplement inadmissible dans un état de droit, quoi. Voilà. Chaque fois qu'il y a un problème, que des gens soit meurent la gueule ouverte, comme on dit, ou qu'il y a un noyé, ou qu'il y ait des situations qui, sur le plan sanitaire, commencent à se détériorer, pour que des autorités, dont c'est le devoir, commencent à réagir, c'est quand même un petit peu... ça pose quand même un sacré souci. Donc ça ne veut pas dire que les autorités n'ont rien fait, ça veut dire qu'il y a eu, encore une fois, des tergiversations, des espèces de décisions, puis de non-décisions, de retour en arrière. Donc du coup, depuis hier soir, un gymnase a été mis à disposition. Une partie d'entre eux, dès hier soir, ont pu être logés. On espère que le reste suivra dans la journée, si ce n'est dans les tout prochains jours ou plus tard. Pour combien de temps, on ne sait pas. Sachant qu'il y en a déjà un premier groupe qui était logé en hôtel. Donc sur les hôtels, ça a été quand même un certain jeu de... Ce que je disais tout à l'heure, un jeu de yo-yo. Alors d'abord, on a voulu en placer certains en hôtel. Donc il y en a exactement une quarantaine, entre 40 et 50 qui sont en hôtel. Puis on leur a dit non, les hôtels on va arrêter. Et puis l'État nous a dit a fait savoir hier que en fait non, il n'était pas question d'arrêter l'hôtel lundi soir, etc. Donc c'est un jeu de dupes. C'est quelque part on se fout la gueule du monde et ça c'est insupportable parce que derrière il y a des gens qui sont dans des situations qui sont proprement indignes et en tous les cas revoir ça aujourd'hui en France. Ce genre de situation-là, c'est proprement parlé un bidonville. Hein. C'est vraiment du bidonville, alors que ça fait plusieurs mois que ces gens tournent. C'est tout simplement, je dirais, scandaleux.
Voilà, puis vous le rappelez, la préfecture de la Gironde a déjà été condamnée à de maintes reprises par le tribunal administratif pour sa gestion calamiteuse de l'accueil des demandeurs d'asile. Alors on ne va pas bien sûr parler des salariés, hein, si je puis dire, des fonctionnaires, mais est-ce qu'ils étaient présents à la conférence de presse? Je pense connaître la réponse.
Vous parlez des fonctionnaires de l'État?
Non, des représentants de la préfecture, oui.
Ils étaient en réunion. Nous avons dit au moment où on faisait la conférence de presse, mais parce qu'on a fait la conférence de presse, ils étaient en réunion.
Voilà, donc pas eu de retour, pas eu d'écho de leur part?
Indirect. Indirect pour se faire... Enfin, de la réunion d'hier, est ressorti le fait que finalement on a pu trouver, semble-t-il, une solution ou un début de solution. Qui n'est pas pérenne, mais c'est en tous les cas un début de solution. Comme quoi, quand on veut, on peut.
Alors, vous êtes aux côtés de la CIMAD et de l'ASTI, trois associations. Alors, comment le combat continue, justement? Bien sûr l'affaire de près. Vous avez pu prendre quelques instants pour venir à Odo Radio, bien sûr. Et on vous en remercie. Alors, comment vous pouvez suivre?
Via les différentes associations, mais je voudrais rajouter qu'il y a aussi Médecins du Monde qui est concerné, hein, qui était présent hier aussi, plus d'autres associations qui sont impliquées. Donc je crois savoir que le gymnase sera géré par la Croix-Rouge. Donc il y a effectivement un réseau associatif désormais qui est en place pour les suivre. Il y a d'autres structures aussi qui les connaissent bien, qui sont plus officielles. Donc ces gens-là sont suivis. C'est pour ça que cette situation est, je dirais, c'est indescriptible, inqualifiable d'arriver à ce genre d'extrémité là, c'est-à-dire faire du bruit, convoquer la presse, et tout d'un coup, parce qu'on convoque la presse et les médias, oh tiens, on a trouvé une solution, on commence à vouloir trouver une solution. C'est pas un état de droit, ça. S'il faut à chaque fois faire pression, ça veut dire que le droit ne s'applique pas et que, effectivement, en tant que citoyen, c'est proprement, il faut qu'on le dénonce. Et on doit le dénoncer. Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comment les choses évoluent parce qu'effectivement, la solution du gymnase ne peut être qu'une solution provisoire.
Oui, intermédiaire, enfin.
Voilà. Et les hôtels, ça coûte.
Ça a un coût, effectivement.
Le fric qu'on met dans les hôtels pour héberger des demandeurs d'asile, avec ce fric-là, je pense qu'on aurait déjà pu trouver une solution plus pérenne plutôt que d'y aller, je dirais, à coup de serpe et de nourrir. J'ai rien contre les hôteliers. Hein. Mais enfin, bon, quand même, dans ce genre de situation-là, je pense qu'avec tous les moyens qu'on met et tout le fric qui passe dans les hôtels pour héberger des gens qui sont demandeurs d'asile et que l'État serait censé gérer, on pourrait peut-être créer peut-être plus de places de CADA, par exemple. Hein, je pense que c'est pas impossible.
Voilà, il y a d'autres propositions que vous pouvez faire. outre que ces solutions, je veux dire, qui sont des pansements, je ne sais pas comment dire.
Je dirais les propositions. La seule proposition qu'on ait à faire au départ, c'est l'application du droit.
Tout simplement.
Dit comme ça, il y a un droit au logement et à l'hébergement, mais... encore une fois, je le rappelle, pour tous. Quel qu'il soit, quelle soit l'origine, et pour le demandeur d'asile, il y a effectivement des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc encore une fois, c'est une question, alors primo de volonté, je pense pas que, bon, la volonté, des fois, elle a du mal à se faire identifier, clairement. D'autre part, c'est une question de répartition de moyens. Où est-ce qu'on met les moyens? Est-ce qu'on préfère mettre les moyens en louant ou en achetant des places d'hôtel? Alors en plus, dans les hôtels, je précise que les gens ne peuvent pas faire la cuisine. Petite précision au passage. Ou bien on met en place des structures, alors plus ou moins pérennes, mais de façon à permettre à faire face à un certain nombre de situations de cet ordre-là. Et c'est tout simplement, je dirais, ça serait tout simplement la moindre des choses plutôt que d'assister au spectacle auquel on assiste actuellement sous certains ponts à Bordeaux.
Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de cette triste situation?
On peut rajouter à suivre, mais on va rester vigilant, et s'il faut faire le barouf, on remettra le barouf. Mais je dirais que quelque part, c'est quand même... J'aurais préféré finalement ne pas avoir à intervenir sur ce genre de propos-là, parce que on le constate pour les Sahraouis, on le constate aussi pour les Roms, on le constate, on évacue les camps, ils reviennent, etc.
On déplace le problème des fois.
Mais voilà, tout le monde se renvoie la balle. Enfin, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on est amené à traiter effectivement des personnes qui sont, dignes d'humanité, en tous les cas, moindre des choses. Et encore une fois, la France, pays des droits de l'homme, on va donner la leçon à certains pays, ok, d'accord, mais appliquons nous-mêmes les droits qu'on est censé accorder à ceux pour lesquels on octroie un droit d'asile ou on examine, ou ne serait-ce que l'examen du droit d'asile ou la demande d'asile. Il y a des obligations qui sont faites par terre, il y a des textes internationaux qui ont été signés par l'État français, il faut qu'ils les appliquent.
Affaire à suivre,
oui.
En tout cas, merci,
merci
Jean-Claude, voilà, d'être venu ici à O2 Radio. Allez, je regarde l'heure. Allez, on va changer le protocole. Juste un petit agenda. Je fais signe à Valentin parce qu'il y a du monde. Changement de plateau après l'émission. Un petit agenda et on se quittera en musique. Valentin, rassurez-vous, tout va bien. Je vais pas vous presser. Allez, on va sur l'agenda. Alors, c'est vrai que je vous parlais du carnaval, le monstre. Hassan nous en aura parlé. C'est vraiment le temps fort de ce week-end. C'est ce dimanche, le carnaval des Deux Rives, avec toute une préparation toute cette semaine encore et ces jours-ci encore. Plutôt parce qu'ils ont commencé depuis lundi des ateliers tant du côté de la Rock School Barbet que du côté du Rocher de Palmer, les deux organisateurs de cet événement. Donc rendez-vous dimanche. Allez, parmi les autres événements, on va notamment dire si vous êtes passionné de jeux d'échecs, eh bien une initiation et perfectionnement, les médiathèques du Bois Fleuri à Lormont ce vendredi à 17h30. C'est plutôt destiné à un public âgé à partir de 12 ans. C'est gratuit. 05 56 74 59 80. En ce vendredi, vous avez à l'espace multimédia à Lormont, eh bien, un atelier intitulé Réussir sans référencement web. Là également, c'est tout public, gratuit, mais sur inscription 05 56 74 59 80. Demain samedi 28 février, c'est une rencontre petit-déj sociaux. L'interface homme-machine et le transhumanisme, c'est à la médiathèque du Bois Fleuri. Donc demain à 10h, c'est proposé par l'Université populaire des Hautes-Garonne et animé par David Pucheux, maître de conférence en sciences politiques. Et en toute simplicité, autour d'un café dans un cadre convivial, les Lormontais partageront l'expérience d'un sociologue, attention sur les mots, et s'exerceront à l'exercice critique par la lecture et le débat, réflexion, écoute, échange sur un thème précis. Là, c'est plutôt destiné aux adultes, gratuit, même topo, inscription 05 56 74 59 80. Et n'oubliez pas que le cirque Fratellini, là, je vous l'annonçais ce lundi, j'annonçais qu'ils allaient venir ce week-end, mais non, pour des raisons techniques, il n'y aura pas de cirque. Je préfère le redire au cas où, mais rassurez-vous, en juin, voilà, je n'ai pas les dates précises, mais un nouveau cirque viendra installer son chapiteau ici, domaine du Loret, à ce nom. Allez, on va refermer tout doucement les pages de ce journal en ce vendredi 27 février. Notez que lundi, ce sera Sylvie Carbia du Centre Social de la Colline. Sabine qui sera notre invitée. On remercie, avant de se quitter en musique, tous les intervenants de ce journal, à savoir Amel et Hassan qui nous ont présenté et réalisé les brèves. Et à nouveau un petit coucou à Amel dont c'était le dernier jour de stage après 2 mois passés à nos côtés. Vraiment, encore une fois, je renouvelle au nom de toute l'équipe nos remerciements les plus chaleureux. Nos invités du jour, Damien Thomas, directeur artistique du festival La Semaine Surréaliste, qui va se dérouler du 5 au 13 mai. Et si vous voulez les aider sur la partie financement, eh bien vous allez sur la plateforme Ulule. Allez, je vais rappeler l'adresse fr.ulule.com/semaine-surréaliste. Et si vous voulez les aider à mener à bien, eh bien cette semaine surréaliste, eh bien vous pouvez participer financièrement et tout expliquer sur le site. Merci à Jean-Claude Guichenet, le président de la Ligue des droits de l'homme, qui venait nous parler du sort indigne que subissent des réfugiés et demandeurs d'asile sahraouis. Merci à la régie technique, Valentin et Lucas qui surveillent ça va, il y a l'équipe. Allez, tout à l'heure, dans quelques instants, ce sera le magazine juridique et social Défendez-vous avec Jean-Christophe Blanc en animation et Maître Paul Cessot comme intervenant. Et là, on ne va pas partir comme cela pour la gestion entre les deux émissions. Nommé Westfeld et Blick, voilà la sortie d'un deuxième album, une tournée international et un concert samedi 7 mars prochain. Ce sera au Rocher de Palmer, ici à Senon. Là, on va sans plus tarder écouter un extrait du second album. Alors, si vous nous écoutez en diffusion, ça sera trop tard, mais là, ce midi en direct, si vous nous appelez au 05 56 74 76 85, vous pouvez repartir avec une place de concert ou un album, c'est selon. Allez, on se quitte en musique avec Noémie Westfeld et Blick.
Fama tonda parece uma casa sem janelas, aonde pova a fresse. Vem Lissabon, steht in Temer, via segel, schiff an segeln, kriegt ganz auf am Adem Mäusesen. Fenster, wo eulem zieht ob dem Motem, neu verbeudem auf Vertrachten, beim Metall rausgerissen, bleibt es auf am Vermachte, und für was ich fänd sich schließen. Wend von Verlangen, die vier Wend von Unruhengschaft, sieben bei Nacht die Gesangen, was vor der Stadt sie alle schafft, verschlossen in ihre Bangen, schmeckt jetzt auf einmal mit Penschaft. Schmeck nicht mit Fado, noch mit der Stillkeit, was glitt, mit Volk, mit Entavale, hat Dampf nur mit Bräut. Auf einmal schmeckt nicht mit Fado, auf einmal noch schwerer Fado, schwerer Bovo, solidar. Silenzio maguado, sabe triste sa conta. A fama não cheira faro, mas na terra canção. Alfama.
mas não tem outra canção.
Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les vendredis le magazine juridique et social d'Odo Radio, le magazine Défendez-vous. Défendez-vous en partenariat avec Maître Cesso, avocat Senon. Bonjour Maître Cesso.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez pioché dans l'actualité qui est riche et donc on va pouvoir revenir sur la CNIL, hein, la fameuse Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a émis un délibéré du 2 février 2015 concernant les délais de traitement pour permettre à tout un chacun d'accéder aux TAJ, aux fameux TAJ. Hein. Alors, on n'est pas en train de faire du tourisme, mais c'est ça. Donc, le TAJ veut dire le traitement.
Voilà, ouais. C'est loin de là.
Alors, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Voilà. Un des fichiers, d'ailleurs, qui était né du regroupement d'anciens fichiers. On y reviendra, mais c'est ça. On reviendra aussi sur un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui date, lui, du 4 février 2015, concernant la preuve par testing. Et oui, est-ce que la preuve par testing est conforme à la Constitution française? On y reviendra en votre compagnie, Maître Cesso. Et enfin, si on a le temps, hier, c'est vrai, on recevait le délégué défenseur des droits, Joël Guérin, sur la rive droite, qui a pu nous parler du dernier rapport d'activité du défenseur des droits, Jacques Toubon, donc, en 2014. Et on reviendra sur l'intervention d'un défenseur des droits cette semaine dans un procès en appel sur des contestations au motif de discrimination. Suite à un contrôle soi-disant donc au faciès. Hein, voilà, on y reviendra. Alors, oui. Mais c'est ça, on commence tout de suite avec l'ACNIL et effectivement ces délais de traitement qui paraissent assez longs pour l'ACNIL pour accéder à ce fameux fichier du traitement des antécédents judiciaires. Mais c'est ça.
Oui, alors. En France, on a, comme ailleurs sans doute, mais donc une certaine manière de faire des fichiers. Et on a en l'occurrence un fichier qu'on appelle TAJ, qui est le traitement des antécédents judiciaires, qui est la réunion. Nous avions fait une émission dessus l'année dernière, je pense. La réunion du STIC, qui était le fichier d'antécédents judiciaires de la police, et du JUDEX, qui était la même chose chez les gendarmes. Bon. On est aujourd'hui sur les tâches. Donc on a, en France, ce principe qui est que, donc évidemment, sur les fichiers informatisés, toute personne a un droit d'accès et de rectification. C'est un droit d'accès et de rectification qui passe par le biais de la CNIL, donc la Commission d'informatique et des libertés. Sauf que, donc, on a les demandes vont transiter, donc eux vont faire des demandes au niveau des parquets, etc. Et donc, la CNIL se fâche quand même, en laissant 3 mois à l'État pour se mettre en conformité, c'est-à-dire respecter les délais qui sont prévus par les textes pour répondre à ces questions et pour mettre à jour les fichiers.
Et du coup, les délais qui sont prévus,
On nous dit 20% des demandes d'accès aux données enregistrées dans les fichiers STIC et Judex, donc, reçus en 2012, par la CNIL, sont toujours en cours d'instruction.
Ah, d'accord.
Ouais. 60% pour 2013, 80% pour 2014. C'est-à-dire qu'en gros, il y a bien 2 ans de retard minimum. Donc on est quand même bien en retard. Et donc elle cite l'exemple d'une demande d'accès qu'elle avait adressée au service de police en mai 2013 et qui n'a été transmise au parquet concerné que 16 mois plus tard. un an et demi quasiment, juste pour faire ça. Alors bon,
surchargé. C'est des encombrements, c'est manque de personnel.
Vraisemblablement. Et puis peut-être pas la volonté de les traiter en priorité par rapport à d'autres choses. Bon, mais le fait est que on a un droit d'accès. Il faut quand même qu'on puisse l'exercer par le biais de la CNIL. Donc elle se fâche en disant maintenant.
Oui, parce qu'elle est censée justement défendre nos libertés. Cette fameuse commission.
Les fichiers, on y a accès comme ça. Donc est-ce que moi, je suis fiché, est-ce que les infos qu'il y a dessus sont correctes? Je demande à la CNIL de vérifier.
Bien sûr.
Donc ça passe par ce biais, donc je suis obligé de passer par eux.
Sauf que là, donc il faut pas être pressé, mettre
ça. Ouais, un an et demi, deux ans,
ça commence à faire long.
Mais bon, c'est les problèmes de beaucoup de fichiers, c'est régulièrement comme ça, où on fait une demande d'accès, ou une demande de rectification, une demande d'effacement, parce qu'on n'est plus censé être sur le fichier pour une raison X ou Y, et c'est traité, quand c'est traité, avec des mois de retard, quelquefois des années. Donc ça pose
finalement, la CNIL demande en 3 mois de régulariser les délais.
Ça sera peut-être un vœu pieux vu le retard, mais bon, pour autant, elle aura tapé.
Mais c'est quoi son avis? C'est pas coercitif, sous peine de.
C'est une délibération. Oui. Après, elle n'a pas de pouvoir, en tout cas que je sache, de pouvoir coercitif, dire vous serez condamné à 10 euros par jour si vous ne le faites pas.
D'accord. Bon, donc on suivra.
Tout ça pour dire que bon, il y a quand même un problème, mais qu'il y a une autorité qui s'en occupe et que
voilà, qui a émis un avis.
Parce qu'on aime bien parler de temps en temps des fichiers quand même.
C'est vrai. Donc très bien. Écoutez, on suivra ça effectivement à l'occasion d'autres nouvelles dans l'actualité. Maître Cesso, on poursuit avec ce qu'on a annoncé précédemment au sommaire. Donc la preuve par testing. Et oui, suite à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc qui date du 4 février 2015, concernant le testing et cette fameuse question, est-ce que le testing est conforme finalement à la Constitution française? C'est vrai qu'on ne se l'était pas posé jusqu'alors, on entend parler...
Si on ne l'avait pas encore posé.
Oui, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup entendu parler ces dernières années du testing, ce qui a permis souvent de mettre le doigt sur des discriminations avérées et flagrantes, notamment à l'entrée de boîtes de nuit, mais aussi de logements... de services.
C'est tout l'intérêt du testing. Alors la question était de savoir on était sur la procédure qui était donc dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire que, pour rappeler, donc on se pose la question à la base, disons, tribunal de grande instance, cour d'appel, on se pose la question de la conformité, on renvoie devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État pour l'ordre administratif, devant la Cour de cassation, à qui on dit est-ce qu'on va renvoyer, qu'il va jouer le filtre de savoir si on renverra la question, in fine, au Conseil constitutionnel qui prendra position. Donc là, on est resté au stade du filtre, puisque finalement, la question n'a pas dépassé le stade du filtre de Cour de cassation, disant, pas de problème. La question y était posée manifestement sous l'angle des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Finalement été condamné suite à ce testing.
Parce que le principe du testing, c'est quoi? Comme on l'a dit, on va finalement provoquer, entre guillemets, l'infraction, ou en tout cas provoquer la preuve de l'infraction. En tout cas, on va provoquer quelque chose.
Et on le sait, c'est souvent la grande difficulté, c'est de prouver justement une discrimination. Donc le testing a réussi à mener cette preuve dans le débat contradictoire.
Et la loi est venue préciser que les délits de discrimination, sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats, dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. C'est-à-dire qu'en gros, je viens avec l'intention de démontrer la preuve du comportement discriminatoire. Donc, par exemple, je me présente avec un huissier à l'entrée d'une boîte de nuit avec deux personnes blanches qui passent sans problème, et tout de suite après, deux personnes d'origine africaine ou autre qui ne vont pas passer. Donc là, c'était la question. Du coup, a-t-on provoqué l'infraction? Est-ce que le mode de preuve est déloyal? Alors la Cour de cassation nous dit non.
C'est plutôt rassurant, donc finalement.
On peut toujours, de toute façon, la loi avait effectivement prévu le testing, mais c'est vrai que le débat était aussi peut-on se servir d'une preuve quand on a provoqué une l'infraction situation. Elle-même, parce que l'infraction finalement n'existait pas avant que l'acte de testing se fasse.
On a créé les conditions favorables à ce que se produise ou non une infraction finalement.
Ce qui fait qu'on retombe sur la distinction qui est faite par la jurisprudence de la loyauté de la preuve en matière pénale. On reste sur la question de la matière pénale donc la jurisprudence, c'est-à-dire la position habituelle des juges, étant d'exclure l'application des principes de loyauté des preuves à celles apportées par des particuliers au juge pénal. Donc en gros, même si je vole un élément qui est probatoire, je peux le transmettre et justifier, donc moi en tant que particulier, que ça me permet de démontrer l'existence d'une infraction. Bon, puisque le principe en matière de preuve, c'est que hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge décide d'après son intime conviction. Bon, c'est l'article 427 du Code de procédure pénale.
Donc, on n'interdit pas de créer une situation finalement qui permet de déclencher ou pas une infraction.
Par contre, tout au contraire. Donc le testing est validé. Par contre, tout au contraire, la jurisprudence est sévère, parce que là, je te parle justement de la situation des particuliers. Donc moi, en tant que particulier, je vais lancer une opération de testing pour démontrer que je vais être victime d'une discrimination et je vais pouvoir utiliser ce procédé de testing. La Cour de cassation nous rappelle quand même, donc c'est pas contraire droit de défense, droit de procès équitable. Elle nous dit que cette technique ne remet pas en cause la possibilité quand même de contester la pertinence de cette preuve devant le juge, c'est-à-dire que moi, si je suis pas d'accord, enfin si le prévenu n'est pas d'accord avec
il
peut l'exprimer dans le débat, le contester, il faut que cet élément soit évidemment soumis au principe du contradictoire, il peut contester, donner des explications, pourquoi j'ai pas accepté telle personne et pourquoi j'ai accepté telles autres.
Dans tous les cas, elle est quand même recevable, du coup. Mais elle est contestable, mais recevable.
Voilà, c'est recevable, mais après, on peut le contester. On peut le contester sur le fond. Alors ça, c'est une tolérance prévue au profit des particuliers. Par contre, la Cour de cassation a toujours été, il reste sévère par rapport au comportement déloyaux de l'autorité publique. C'est-à-dire que policiers, juges d'instruction et autres ne peuvent pas, eux, provoquer une infraction.
Oui.
Alors, on n'est pas aux États-Unis où, de mémoire, ça reste admis.
C'est ça.
Et par exemple, on a un exemple d'un arrêt relativement récent, qui est du 7 janvier 2014, donc c'est à peine un an, où un juge d'instruction a pris une ordonnance. Donc, dans le cadre d'une information, donc d'une instruction, d'une enquête qu'il suivait lui suite à un vol à main armée, il décide de mettre en place un système de sonorisation d'écoute, donc dans les cellules de garde à vue d'un commissariat de police, en mettant les deux personnes soupçonnées, puisque on est qu'au stade de l'enquête.
Alors c'est vrai qu'il doit regarder les séries américaines, peut-être.
Peut-être un peu trop. Donc soupçonnées de cette infraction, on sonorise leurs deux cellules, on les met côte à côte, et puis on dit on va enregistrer.
Les aveux, quoi, finalement.
Ils vont s'incriminer. Alors les mecs, évidemment, se chuchotent des trucs, genre, je sais pas le contenu, mais genre, bon, tu parles pas de ça, de ça, on va dire ceci, on va dire cela. Cour de cassation. Alors, personnes,
manifestement,
les personnes s'en rendent compte, partent devant la chambre d'instruction pour dire annulation de l'acte. La chambre de l'instruction dit non, il n'y a pas de problème. Bon. Et la Cour de cassation, donc pourvoi en cassation, et la Cour de cassation dit non, il y a quand même effectivement un problème, en nous disant donc que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de messieurs X et Y, dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participe d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené monsieur X à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue. On rappelle donc qu'il y a quand même
C'est bien pratique, c'est tentant pour un juge d'instruction.
Mais il y a le droit de se taire, le droit à la vie privée, limite quand on est l'emmène dans sa cellule, bon, à la limite, et surtout le principe de loyauté dans la recherche.
Et là, du coup, donc, pour toute personne représentant la justice ou encore les forces de l'ordre, ce genre de conditions préétablies pour justement arracher une preuve, elle n'est pas valable.
Donc la loyauté de la preuve est quand même différemment appréciée en fonction de qui a apporté des éléments de preuve. Bon, c'est vrai que moi en particulier, j'apporte des éléments de preuve aux policiers.
Ça, c'est possible.
Ils le prendront en compte, entre autres éléments, mais les policiers, eux, doivent respecter.
Policiers, juges, évidemment.
Et les organes chargés de l'enquête, d'une manière générale.
Très bien, M. Sommet. Merci pour cet éclairage, effectivement, sur le testing, la preuve par le testing. Mais si vous voulez, on va poursuivre.
Comme on était sur les discriminations, je pense qu'on pourrait.
On a reçu hier Matsesso Joël Guérin, délégué du Défenseur des droits, qui a pu nous présenter le rapport d'activité 2014 du délégué Défenseur des droits. Donc effectivement, on a pu avoir un peu le palmarès des discriminations en France et notamment en Gironde. Et vous voulez revenir effectivement sur l'intervention, parce que parmi les activités Défenseur des droits, effectivement, il peut aussi intervenir dans le cadre d'une procédure, des fois saisir aussi des juridictions, mais et là vous voulez revenir sur un procès donc qui était un appel. Donc les faits étaient suite à un contrôle, je crois, de police. Hein.
Et
allez-y, je vous écoute.
Ouais, c'est plusieurs personnes qui ont saisi le tribunal de grande instance de Paris à l'origine en disant faute lourde du service public de la justice.
Bon, c'est-à-dire que, d'accord.
Alors, on peut engager la responsabilité du service public de la justice dans un certain nombre de conditions prévues par la loi et code civil. Et donc là, ils nous disent donc demande de dommages intérêts, faute lourde du service public de la justice parce que j'ai été contrôlé et ces contrôles d'identité, je les estime discriminatoires. Ils nous indiquent donc qu'on a.
Alors le motif c'était contrôle au faciès. En fait.
Mais alors, quelqu'un qui marchait, qui avait été contrôlé parce qu'il marchait d'un pas pressé et qui était vêtu d'un sweat à capuche dans une ville où sévit un fort trafic de drogue, mais il était noir. Et par exemple, deux étudiants de Subdeco qui se promènent dans les rues à Lille, il y en a un qui est contrôlé par la police, l'autre qui l'est pas. Je vous laisse deviner lequel a été contrôlé. Puisqu'il y en a un qui était noir et l'autre qui était blanc.
D'accord.
Donc lequel a été contrôlé. Donc ils saisissent le tribunal en essence, qui les déboute, qui leur dit absence de preuve du contrôle. Et donc, du coup, absence de preuve de la discrimination, puisque vous ne rapportez même pas la preuve que vous avez effectivement fait l'objet d'un contrôle de police. Ce qui nous renvoie au débat, et le tribunal d'ailleurs le rappelle dans son jugement, ce qui nous renvoie au débat de société qu'il y a eu
avant
les élections, auquel Manuel Valls avait
mis
un coup d'arrêt, qui était celui des réformes des contrôles d'identité.
Notamment de remplir un formulaire justifiant du contrôle.
Et notamment, comme ça se fait dans certains pays.
En Angleterre, notamment en France.
La plupart des actes de police donnent lieu à des procès-verbaux. Un procès verbal qui est établi, qui permet de vérifier la régularité de la procédure.
Et puis d'avoir en matière les dates, de contrôle, dates, les heures, le lieu où ça s'est passé, les circonstances.
Avec toutes les mentions obligatoires. Alors, les contrôles d'identité donne lieu à un procès verbal à partir du moment où on constate qu'il y a une infraction et qu'il va y avoir une suite.
Dans
le cas contraire, on contrôle votre identité et puis point barre. C'est tout. Donc du coup, ce dossier, il y a eu un appel qui est passé mercredi dans la cour d'appel de Paris. Mm-hmm. Et le
défenseur des droits est venu donc.
Il a envoyé un avis qui était plus sous forme de rapport.
Alors à quel titre il est intervenu dans la procédure, saisi par les plaignants
Je sais pas, mais il peut de toute façon
ou lui-même s'auto-saisir.
Il peut intervenir spontanément quand il entend parler d'un procès dans lequel il pourrait faire quelque chose, soit il peut aussi intervenir sur demande d'une partie. Donc ça m'est arrivé d'écrire en disant sur tel dossier il me semblerait intéressant que vous interveniez, ce qu'il fait ou ne fait pas.
Donc là l'avocat des plaignants a pu lire le courrier émis par le
ça a été envoyé à la juridiction directement, donc avec copie aux parties, donc tout le monde a été avisé. Bon, décision qui sera rendue plus tard, mais donc Double intérêt, donc quand même, ça démontre qu'il y a une difficulté. Je fais l'objet d'un contrôle de police discriminatoire. Quels sont les modes de preuve que j'ai de l'existence de ce contrôle de police ? Déjà, ne serait-ce que ça. Et après, du fait qu'il était discriminatoire, autre problème, mais déjà de l'existence même du contrôle de police, il y a quand même effectivement encore des questions à se poser. Il y avait
ce fameux numéro de matricule qui avait été remis à l'ordre du jour.
Ça justifie pour autant pas que j'ai eu un contrôle de police.
D'accord, même si on donne le numéro, bah, on l'inscrit.
J'ai pu le croiser dans la rue une autre occasion et venir mentir en disant qu'il m'a contrôlé l'identité.
D'accord.
Donc ça règle pas véritablement le problème. Et effectivement, un récépissé permettrait de démontrer qu'il y a eu, oui, un contrôle d'identité. Et alors c'est vrai qu'on a deux personnes qui se promènent côte à côte. À ce moment-là, il y en a un qui est noir, qui a un petit papier disant qu'il y a eu un contrôle d'identité, l'autre qui est blanc, qui n'a pas de petit papier. Donc on va quand même à ce moment-là poser la question. Non, mais pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre, quoi.
Donc effectivement, ça permettrait d'y voir plus clair.
Ça permettrait aussi de rapporter une preuve. Ce procès, je ne sais pas quelle en sera la solution. Mais
on reviendra au moment de la délibération, décision.
Donc ça met en lumière quand même les difficultés dans lesquelles sont placés les intéressés lorsqu'ils veulent faire une procédure pour contester le contrôle d'identité. Alors après, que leur procédure se justifie ou pas, c'est un débat. On est sur une question là déjà. Le tribunal leur dit mais vous n'apportez même pas la preuve de l'existence du contrôle. Alors imaginez l'existence de la discrimination. Et ça permet de mettre aussi un peu en lumière les pouvoirs du défenseur des droits. On te rappelle qu'il avait été créé à compter de 2011 pour des mandats de 6 ans. Dominique Baudy s'était décédé en cours de mandat, il avait été remplacé depuis juillet l'année dernière par Jacques Toubon. Donc il remplace donc ce qu'on appelait autrefois le médiateur de la République, qui existait depuis je crois les années 70, qui avait pour but de régler un peu les différends qu'il y avait entre une administration et les particuliers. La Commission nationale de déontologie de la sécurité, donc qui était relative à la police, les sociétés, la gendarmerie, etc., les rapports entre les individus et ces organismes, et les sociétés de sécurité, donc Commission nationale de déontologie de la sécurité, et il y avait aussi le défenseur des enfants, qui était une défenseure des enfants à l'époque, mais aussi la HALD, donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, donc qui avait tout ça avait été fusionné sous le titre
générique de défenseur des droits.
Générique de défenseur des droits.
Et donc il y a des délégués dans chaque département.
Voilà, chapeautés par
qui font des permanences
d'ailleurs. Et donc il y a des permanences, donc effectivement localement,
par exemple à la MJD de Lormont, la Maison de la Justice du Droit de Lormont.
Voilà, et donc c'est l'un des délégués qui a été reçu ici hier. Mmh. Donc on peut s'adresser au défenseur des droits, donc soit directement en ligne.
Sur le site internet qui est très bien fait.
Soit en prenant contact avec
les délégués sur le territoire.
Et après donc les pouvoirs sont relativement vastes. On va dire on va synthétiser puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va noter deux choses. D'abord, un pouvoir d'enquête. Et deuxièmement, le pouvoir. Donc, il y a un rapport qui est établi et la possibilité d'attirer l'attention du gouvernement sur des difficultés spécifiques et l'inviter à y remédier.
Et puis aussi la possibilité. Et du coup, du législateur aussi, des fois.
Oui, voilà. L'œuvre du législateur est souvent, effectivement, à l'origine du travail. C'est le travail du gouvernement qui est à l'origine souvent du travail du législateur. Puisqu'il y a plus de projets de loi que de propositions de loi.
Du coup, il permet de faire un focus, un éclairage sur une difficulté particulière ou sur un problème à régler, quoi.
Exact. Et aussi intervention, comme on l'a vu donc, dans cette procédure-là, devant les juridictions.
Donc n'hésitez pas, défendez-vous, mettez ses sceaux.
On n'attire jamais suffisamment l'attention sur l'existence du défenseur des droits. Et puis aussi, du coup, comme on l'a fait là, sur la possibilité des testings, alors qu'on ne fait pas nécessairement spontanément, mais avec le biais d'associations. Et tout ça pour dire, donc, que
SOS racisme qui en a fait beaucoup,
et que il y a des moyens juridiques pour lutter contre les discriminations quelles qu'elles soient,
donc il faut les utiliser,
ne pas hésiter.
La preuve que vous avez été discriminé, défendez-vous, quoi.
Exact. Et c'est en le faisant, c'est en se défendant qu'on fera cesser ces comportements là
Très bien, Maître Cesso. Bon, on restera sur ces belles paroles. Maître Cesso, défendez-vous. Mais oui, c'est le titre éponyme de notre magazine juridique et social qu'on retrouvera en votre compagnie vendredi prochain à partir de 12h30. On va remercier Valentin à la régie technique et Lucas. On va saluer l'arrivée de Guy voilà, dans les studios d'Odo Radio qui va prendre la suite juste après ce magazine avec les vendredis sports d'Odo Radio. Devrait s'en suivre aussi les spécialistes rugby, une cave à rock vers 17h et puis une rediffusion du journal d'info d'Odo Radio avec ce magazine juridique et social entre 18h et 19h. Et enfin, on retrouvera pour cette soirée sur Odo Radio toute l'équipe de Carlos, voilà, et la musique et des infos du Portugal. On remercie à toutes et à tous. On souhaite un très bon week-end. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes d'Odo Radio.
Eau de radio, écoutez Eau de radio, écoutez sur 91.3, 91.3.
Gendarmerie, etc. Allô,
SOS.